Bonjour à tous et à toutes. Merci d'abord à Arnaud et à Anaëlle d'avoir si bien préparé le terrain, j'allais dire, à cette prédication dans l'Église. Effectivement, depuis 4 semaines maintenant, nous remettons au goût du jour et simplement nous nous rappelons, à l'occasion de l'anniversaire de la Réforme qui approche, les 5 déclarations fondatrices de cette réforme et que les réformateurs ont formulé en latin, puisqu'à l'époque c'était la langue qui était parlée quand on parlait de la foi. Et ces 5 piliers, déclarations fondatrices, sont appelés les 5 sola. Et donc sola gratia, la grâce seule, sola fide, la foi seule, sola scriptura, l'écriture seule, Solus Christus, Jésus-Christ seul, et Soli Deo Gloria, la gloire de Dieu seul. C'est bon, je ne me suis pas trompé, j'ai mon diplôme de latin, je suis admis dans le cercle restreint des latinistes. 5 piliers de la réforme. Et cette réforme n'avait pas pour but de créer une nouvelle religion. Ce n'était pas l'idée. Lorsque Martin Luther a placardé ses 95 thèses sur l'église de Wittenberg en Allemagne, il n'avait aucunement l'intention de créer une nouvelle religion, ni même un nouveau courant de pensée, ni même ce genre de choses-là. Il voulait que l'église se réforme, d'où le nom de la réforme. Il voulait que l'église revienne aux sources et à l'authenticité de la parole de Dieu, que ce soit les Luther, les Calvin, les Zwingli. Tous les réformateurs n'ont absolument rien inventé. Tous les réformateurs n'ont absolument rien trouvé. Ils ont juste redécouvert l'authenticité des enseignements bibliques et ils les ont remis au goût du jour, ces enseignements. Ce matin, on va méditer ensemble sur Solus Christus, le Christ seul. Et on a déjà vu la grâce seule, la foi seule, l'écriture seule, et donc c'est un 4e sola que l'on va voir, et puis la semaine prochaine, c'est Scott qui va conclure en fanfare avec « à Dieu seul soit la gloire ». Parce que c'est bel et bien l'enjeu qui est présent dans l'ensemble, c'est la gloire de Dieu seul, et tout gravite au final. Scott, tu es bien heureux d'avoir été choisi pour... Mais je suis heureux et tous les frères qui sont passés ici pour parler de ces solas sont bénis d'avoir pu se plonger dans ces 5 solas. Et c'est après-demain qu'on va fêter l'anniversaire officiel de la réforme. C'est le 31 octobre. Et je me suis dit que ce serait bien dans cette prédication de laisser peut-être une part un peu plus importante à l'histoire. Et évidemment, bien sûr, on va regarder ce que la parole de Dieu dit de ce sujet de « en Jésus-Christ seul », mais qu'on puisse prendre une première part dans cette prédication sur l'histoire. Alors, je suis un piètre prof d'histoire, donc ne m'en veuillez pas si je fais plein d'omissions. C'est passionnant que d'étudier la réforme et d'étudier les faits qui se sont passés autour de la réforme. Et je voudrais simplement me servir d'appui de l'histoire pour arriver, et ça m'a aidé à mieux comprendre comment est-ce que les réformateurs en sont venus là. Parce que quand on regarde la société, à l'époque de la Réforme, déjà la Réforme c'est le 16e siècle, c'est-à-dire au début des années 1500. Il ne faut pas faire dans le grand détail, mais le contexte de la Réforme c'est une société qui est terrorisée, une société qui a peur, une société qui a peur de la mort. Et les gens, l'espérance de vie est basse, faible. On sort tout juste du Moyen-Âge, les gens ont peur, il y a des épidémies, il y a des famines, il y a la peste dans tout l'Empire à ce moment-là. On sort tout juste d'une grande période qui s'appelle la période de la peste noire. Quelques dizaines d'années auparavant, on était encore dans cette peste noire. La peste noire a décimé le quart de l'Europe. Un quart de la population européenne est décédée lors de la peste noire. C'était quelques dizaines d'années avant. Et les gens sont terrorisés à cette idée de mourir. Et ils sont terrorisés parce qu'ils ne savent pas comment ils vont laisser leur famille, comment elle va pouvoir subvenir à leurs besoins, bien sûr, mais ils sont aussi très conscients, parce que la société est très religieuse à ce moment-là, ils sont aussi conscients qu'ils vont se retrouver en face d'un Dieu saint. Et les doctrines qui sont véhiculées à cette époque-là et qui sont des fausses doctrines, sont des doctrines qui disent qu'il faut pratiquer un certain nombre de choses de manière à acquérir le salut. Et évidemment, les gens, dans cette période-là, sont pauvres, essentiellement, et ne peuvent pas pratiquer ces choses-là. Et ils sont terrorisés à l'idée de rencontrer un Dieu à qui ils vont devoir rendre des comptes et qui va les condamner les uns après les autres. Ils vivent une vie minable sur terre. Tout ça pour finir en enfer. Voilà la perspective que les gens ont à cette époque-là et voilà la perspective qu'entretient l'Église instituée à ce moment-là. Et c'est bien une chose qui est extrêmement triste que celle-ci. Même si le contexte est différent aujourd'hui au XXIe siècle, la peur de la mort est toujours une peur qui est présente. C'est étonnant, je trouve, et j'ai trouvé ça intéressant, c'est étonnant que l'anniversaire de la Réforme, le 31 octobre, tombe la veille de la Toussaint. C'est étonnant de voir une sorte de clin d'œil, un clin d'œil de l'histoire, on va dire, que dans cette ambiance où les gens essayent de fuir la mort, essayent de la cacher, essayent de ne pas l'afficher, essayent de trouver des palliatifs à ça, maquillent cette peur, cette angoisse. C'est étonnant de voir qu'il y a la même peur, pas les mêmes maladies peut-être, mais la même peur aujourd'hui au XXIe siècle que les peurs qui étaient au XVIe siècle. L'angoisse de la mort, elle est toujours présente, cette angoisse. Au fond, qu'on la verbalise ou qu'on ne la verbalise pas, elle est là. Et dans ce contexte-là, les historiens nous disent que l'Église instituée de l'époque, qui est l'Église catholique romaine, et qui est une Église qui est cataloguée par les historiens comme étant corrompue et élitiste. Pas flatteur. Élitiste parce que les messes étaient pratiquées en latin et que les gens ne parlaient pas le latin. Aucun moyen de s'instruire. Aucun moyen de communiquer. C'est un comble. Aucun moyen de communiquer cette parole de Dieu, cette lettre que Dieu nous a laissée de manière justement à se révéler, puisque c'est bien l'objectif de la Bible, c'est qu'il nous parle, que Dieu nous parle. Les gens parlaient en latin, dans une langue qui était incompréhensible pour le peuple. Corrompu, parce que à bien des niveaux, l'Église avait tendance à tirer des ficelles du pouvoir, manipuler derrière le rideau, essayer de s'en sortir, récupérer de l'argent d'une manière ou d'une autre, discrètement, des luttes d'influence. Et puis, ils avaient mis en place un système, et ça ne date pas de l'époque de la Réforme, hein, ça date de bien avant, mais ils avaient mis en place un système qu'on appelle le système des indulgences. Et au final, on en parle de ce système des indulgences, parce que vu qu'on approche de la Réforme, on a remis un petit peu une couche de culture sur ce qu'est une indulgence, mais si vous n'avez pas vraiment compris ce qu'est une indulgence, je voudrais en dire deux petits mots. Qu'est-ce qu'une indulgence ? Le péché, donc c'est la doctrine qui était véhiculée à l'époque, et évidemment on ne se reconnaît absolument pas dans cette doctrine-là, qui n'est pas conforme à l'authenticité, à la vérité de la parole. J'explique simplement ce qu'était une indulgence. À l'époque, le péché, lorsqu'une personne avait péché, il fallait faire deux choses. De manière à ce que le péché soit pardonné devant Dieu, il fallait que cette personne se confesse. C'était un sacrement qu'on appelait le sacrement du pardon. C'est un sacrement qui existe toujours d'ailleurs. Et ce sacrement du pardon, c'était on allait voir une personne, un prêtre en l'occurrence, et on allait se confesser. Ça a effacé la faute, mais pas complètement. Sur terre, il fallait expier. C'est-à-dire qu'il fallait faire pénitence pour le péché en question. Donc, cette pénitence avait lieu de différentes manières, donc une mortification, etc., etc. Évidemment, on est tous conscients, je pense, que quand on commet un péché, et on en connaît énormément, on ne peut pas faire pénitence pour tous les péchés. Donc, arrivé à un moment où il y avait ce système qui avait une limite, Et il fallait donc, il y avait la possibilité qui était donnée par l'Église instituée à ce moment-là de racheter la pénitence. Donc on pouvait racheter la pénitence et on recevait un petit papier qui s'appelle justement une indulgence. Et je vous ai mis un petit papier ici d'indulgence qui a été retrouvé dans un cadre ici. Et donc on pouvait racheter la possibilité de ne pas faire la pénitence. Ça n'empêchait pas la confession, vous l'aurez compris. Hein. Toutes les personnes qui n'avaient pas fait pénitence sur terre allaient dans un lieu qui s'appelle le purgatoire. Voilà les choses mises bout à bout au niveau de l'histoire. Donc, soit on avait fait pénitence sur terre et on arrivait à esquiver relativement le purgatoire, mais vu qu'on n'avait jamais fait pénitence pour tous nos péchés, on allait tous au purgatoire. Voilà. C'était un petit peu le système. Mais, possibilité de racheter à travers ces papiers qu'on appelle des indulgences, une bonne grâce, c'est-à-dire que l'Église instituée à ce moment-là distribuait le pardon de Dieu aux gens, en quelque sorte. Évidemment, c'est très très faux et on se porte en faux complètement, puisque la parole de Dieu est loin d'enseigner ça, elle enseigne même complètement le contraire. Pour vous donner une idée de l'absurdité à laquelle on en était arrivé, un homme qui était un noble propriétaire d'un château qui va devenir par la suite un protecteur de Luther, Frédéric le Sage, avait acquis 17 443 reliques, ce qui lui permettait, a priori, d'épargner 128 000 années de purgatoire. Et ça, ce n'est qu'un exemple parmi des centaines. Et puis, si vous n'aviez pas d'argent, eh ben, c'était fichu. Et c'est tout. Voilà le fonctionnement de l'époque. Des épidémies, la peste, des choses qui faisaient que d'un moment à l'autre, vous pouviez vous retrouver en face de Dieu et cette pression énorme qui pesait, cette chape de plomb qui pesait sur les gens, cette nécessité de devoir se racheter de manière à, lorsqu'on se présente devant Dieu, pouvoir gagner son salut. Voilà ce qui était véhiculé à ce moment-là. C'était complètement absurde, bien évidemment. Dans ce marasme, un homme, Martin Luther, qui est moine dans le monastère de Wittenberg, une ville qui est dans l'actuelle Allemagne, c'est un moine qui est particulièrement tourmenté. Il pratique des mortifications, il se flagelle régulièrement, des jeûnes, pèlerinage à Rome, il se confesse, mais sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, au point que ses collègues qui sont dans le même monastère que lui le considèrent comme étant un fou. On raconte à son sujet qu'un jour, il s'est confessé pendant 6 heures. 6 heures de suite, ça a dû épuiser le prêtre, pendant 6 heures pour les péchés de la veille. Il était tétanisé à cette idée de devoir passer du temps dans le purgatoire, tétanisé à cette idée de devoir se racheter lui-même, vouloir confesser encore, 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 vouloir essayer d'acheter son salut, de gagner son salut, mais il n'avait pas d'argent, donc il ne pouvait pas l'acheter. Donc il faisait par tous les moyens, il creusait dans sa vie de manière à savoir les choses qui ne vont pas. Et dès qu'il avait quelque chose qui n'allait pas, hop, tout de suite, il allait au confessionnal. Et il allait apporter ses péchés. Et c'était terrible. Il vivait une angoisse la plus complète. Et il était tourmenté. Son supérieur dans l'ordre monastique, vu qu'il était extrêmement tourmenté, a essayé de trouver une solution. Et cette solution a été de dire, écoute, peut-être qu'en lisant la Bible et en étudiant la Bible, tu vas mieux t'en sortir et tu vas être apaisé. Et donc, il l'a envoyé, peut-être c'était une manière de se débarrasser de lui aussi, je ne sais pas, mais il l'a envoyé à l'université de manière à pouvoir étudier la Bible. Et Luther est parti à l'université pour étudier la Bible et il est revenu avec un doctorat en théologie et avec surtout une nouvelle compréhension de voir que la parole de Dieu ne dit absolument pas les choses qui étaient véhiculées par l'Église instituée. C'était non. Et il découvre à ce moment-là l'authenticité, la véracité de la parole de Dieu qu'il n'avait pas comprise. Et il découvre à ce moment-là que le salut ne peut s'acquérir que par la foi. La foi en quoi ? La foi en Christ seul. Pas en un homme, mais dans le sang de celui qu'Anaël nous a présenté tout à l'heure, le Sauveur et le Seigneur de nos vies, Jésus-Christ seul. Et c'est ça que la Bible véhicule, et c'est ça que Luther va comprendre, le salut par la foi seule, en particulier en lisant l'Épître aux Romains, la foi dans le sacrifice de Jésus-Christ. Luther, une fois après avoir compris ça, revient dans son monastère, et son but n'est pas de crier haut et fort, j'ai compris, et puis je veux communiquer ça à tout le monde. Il revient dans son monastère, et lui-même, il est apaisé, il est mieux. C'est une vraie réussite que cette confrontation avec la vérité de la parole. C'est une vraie réussite, c'est un succès dans son cœur. Il est apaisé, il revient dans le monastère et il passe quelques années là dans son monastère. Et puis un jour, une personne nommée Letzel passe dans son village sur la place publique. C'est un vendeur d'indulgences. Rome a décidé de reconstruire la basilique Saint-Pierre et a besoin d'argent pour ça. Donc c'est la période de la grande reconstruction de la basilique Saint-Pierre avec le plafond de la chapelle Sixtine, Michel-Ange qui intervient et il y a besoin de beaucoup d'argent. Donc Rome réédite des indulgences de manière non pas à donner le salut aux gens, mais de manière simplement à récupérer de l'argent, voilà, tout simplement. Et repeindre donc l'ensemble des bâtiments et reconstruire la basilique à Rome. Et Letzel est un très bon vendeur d'indulgences. Il vient sur la place publique, il procède à des mortifications sur lui-même, il se brûle les mains en disant « mais vous n'avez pas honte de ne pas acheter des indulgences pour ces personnes qui sont en train de mourir, enflammées actuellement ?» Parce qu'on peut racheter des indulgences pour soi, mais on peut acheter des indulgences pour ceux qui sont morts aussi. Donc ceux qui sont actuellement en train de souffrir, vous n'avez pas honte de ne pas acheter des indulgences pour eux ? Il y avait une pression colossale qui était mise sur ce peuple. Et Luther voit ça et c'en est trop pour lui. C'en est trop, il ne peut plus garder ça pour lui. Et il va, le 31 octobre 1517, sur la porte de l'église de Wittenberg, et il va clouer sur cette porte 95 thèses qui sont là pour dénoncer la compréhension du salut qui était véhiculé à l'époque, et pour dire « mais ce n'est pas ça, ce que j'ai vu dans la parole de Dieu, ce n'est pas ça. Ce que j'ai vu, c'est un salut par la foi seule, en Christ seul, et c'est une grâce. Et c'est une grâce. » Et Luther va clouer ses 95 thèses sur la porte et va dénoncer les faux enseignements. La réforme n'est pas une réforme institutionnelle. Cette réforme, c'est une compréhension du salut. Elle concerne le salut et uniquement le salut. Et cette réforme, en résumé, on pourrait dire qu'elle tient en deux points. Le salut n'est pas à vendre. Mes amis, c'est quelque chose qu'il est important de comprendre encore aujourd'hui. Le salut n'est pas en vente. Parce que, vous savez, ça peut être sournois, ça. C'est quelque chose qui peut s'instiller en nous, comme on va le voir un peu par la suite. Et deuxième chose, c'est que nos œuvres ne peuvent pas nous sauver. Parce que c'est en Christ seul qu'est le salut. Pas dans nos œuvres, pas dans ce qu'on fait, pas dans ce qu'on pense. Aussi bon soit-on, et aussi belles nos œuvres soient-elles. Luther était particulièrement conscient de qui est Dieu. Il en avait peur. Et au final, Luther avait raison d'être inquiet, parce qu'il y a de quoi avoir une forme de peur devant Dieu. La Bible, qui est le livre qui nous révèle qui est Dieu, au travers notamment du récit d'histoires d'hommes, de femmes, une galerie de portraits, et au cours desquels on découvre le caractère de Dieu. Et ces caractères, que l'on appelle des attributs de Dieu, on en connaît plusieurs, dont certains sont plus mis en avant que d'autres. Son amour, sa fidélité, sa patience, qui sont des caractères pleins de notre Dieu. Il est pleinement amour, il est pleinement fidèle, il est pleinement patient. Il n'y a aucune ombre dans ses caractéristiques. Mais dans la parole de Dieu, il y a un caractère de Dieu qui semble dominer l'ensemble des autres, qui semble être le meneur des autres, et c'est la sainteté de Dieu. Et En hébreu, dans la langue hébraïque, j'ai déjà eu l'occasion de le partager il y a quelques années de ça, mais le superlatif n'existe pas. Et de manière à mettre l'accent sur un mot, il faut le répéter plusieurs fois, et notamment trois fois, ce qui est un signe de perfection. Et le seul attribut de Dieu dans la Bible qui est répété trois fois, c'est sa sainteté. Il est saint, saint, saint. Mais notre Dieu n'est pas amour, amour, amour. Nulle part on trouvera ça dans la Bible. Il est parfaitement amour, mais sa sainteté est un accent sur lequel les auteurs inspirés de l'Écriture ont mis pour dire qu'il est particulièrement saint. Et que signifie sa sainteté ? Ça signifie qu'il n'est pas nous. Il est autre. Il est séparé de nous. La distance qui existe entre Dieu et nous est infinie, inaccessible. Et il y a des textes dans l'Écriture, je ne vais pas lire des textes sur la sainteté de Dieu en tant que tel, mais juste les deux premiers textes dans Exode, qui est un livre de la Bible, chapitre 33, verset 20, pour se rendre compte du caractère infini de Dieu. Dieu dit à Moïse, « Nul ne peut voir ma face et vivre. » Tu ne peux même pas me voir. Dans une lettre que l'apôtre Paul va écrire à un jeune qui s'appelle Timothée, il dit qu'en décrivant Dieu, qu'il est le bienheureux, le seul souverain, le roi des rois, le seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible, que nul homme n'a vu ni ne peut voir et à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Voilà qui est mon Dieu. Voilà qui est le Dieu que nous adorons dans cette Église. Il est saint, 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 parfaitement saint. En face de ce Dieu, la Bible nous dit dans ce même livre qui a impacté Luther dans l'Épître aux Romains, il nous dit qu'il n'y a pas de juste en face de ce Dieu, pas même un seul. Vous pouvez prendre le plus brillant, le plus parfait des hommes, il n'est pas juste devant Dieu. Et il y a un verset qui est terrible. Tous et toutes, on est pécheurs. Et le salaire du péché, c'est la mort. Luther avait raison d'avoir peur. Et quelque part, peut-être aujourd'hui, on n'a pas assez cette crainte. Cette crainte. Parce qu'on maquille cette mort. Parce qu'on la fait oublier, on la passe sous silence. On la rend joyeuse. On peint des citrouilles. Face à un Dieu trois fois saint, aucun homme ne peut tenir. Quel que soit son diplôme de théologie, que ce soit un pasteur, un prêtre ou n'importe qui, aucun homme ne peut tenir devant la sainteté de Dieu. Notre péché et notre condition humaine nous séparent infiniment de lui. On est forcément mort. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. On est mort devant Dieu. Et pourtant, la Bible nous montre que Dieu veut, malgré cette distance infinie qui nous sépare, il veut établir une relation avec nous. Et vous savez, c'est d'une logique implacable, en fait. C'est d'une logique implacable. Comment faire pour combler une distance infinie qui existe entre Dieu et les hommes, sachant que Dieu veut le faire, que c'est Dieu qui veut combler cette distance infinie? Eh bien, il va réconcilier les hommes avec lui en envoyant une personne qui est à la fois pleinement Dieu et pleinement homme. C'est le seul moyen de réconcilier Dieu et les hommes. La distance n'est pas comblable. On ne peut pas mettre un pont, nous, on ne peut pas construire ce pont. Ce pont ne peut être construit que par Dieu lui-même. Il faut une intervention extraordinaire avec un homme extraordinaire. Et cette fonction d'établir ce pont, la Bible en parle sous le nom de médiateur. Et c'est ça la redécouverte que les réformateurs ont fait. C'est qu'il y a un seul médiateur, qui est Jésus-Christ. Toujours dans cette même lettre à Timothée, Paul dit qu'il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, et ce médiateur, c'est Jésus-Christ, homme. Il a fallu que Jésus-Christ s'incarne, il a fallu qu'il prenne ma condition humaine de manière à construire ce pont infiniment long entre son Père céleste, Dieu, et moi, de manière à ce que je puisse emprunter ce pont. Il n'y a pas deux ponts, il y en a un, et c'est celui de Jésus-Christ. C'est l'enseignement de la parole, c'est l'enseignement de toute la parole. C'est la seule solution. C'est une révolution pour Luther. C'est une révolution pour les réformateurs, pour ceux qui ont compris ça et qui l'ont pris pour eux par la foi. C'est une révolution dans nos vies. Comment est-ce qu'une institution, quand bien même elle s'appellerait Église, comment est-ce qu'un homme, quand bien même serait-il bardé de diplômes de théologie, comment est-ce qu'un objet, une relique ou je ne sais quoi, pourrait réaliser cet office que seul Jésus-Christ peut réaliser? C'est fou de penser ça. Et la parole de Dieu est très dure et condamne fermement un enseignement qui ne serait pas comme celui-ci. Jésus-Christ est le seul médiateur, pleinement homme et pleinement Dieu. C'était la seule solution. Que Dieu le Père envoie son Fils, pleinement Dieu, pour prendre mon humanité. Jésus-Christ est 100% suffisant. Il faut reconnaître que la tentation est grande de vouloir ajouter notre petite contribution à l'œuvre du salut. La tentation, elle est grande. Peut-être pas à la manière aussi brutale que ce qu'on pu le faire à l'époque, ce qu'a pu le faire le clergé à l'époque, en vendant des indulgences ou en disant qu'on peut acheter des choses. Bon, aujourd'hui, peut-être on est moins dupe par rapport à ça, quoique. Mais il y a la tentation sournoise est là de dire « Ah, Jésus-Christ, plus un petit quelque chose que moi j'apporterai, ma petite pierre à l'édifice, ma petite contribution au salut. » Mais la Bible nous dit que Jésus-Christ est 100% suffisant. Et la Bible nous enseigne même pire. Dans Galates, un autre livre de la Bible, chapitre 2, verset 21, Paul dit « Je ne veux pas rendre inutile ce don de Dieu. » Ce don de Dieu, c'est le salut en Jésus-Christ. En effet, si c'est la loi qui rend juste, le Christ est mort pour rien. C'est-à-dire si moi, je peux ajouter un petit quelque chose en respectant la loi et que je crois que c'est ça qui va me faire le petit dernier pas qui va m'amener au salut. Mais Christ est mort pour rien, nada. Si on ajoutait quelque chose, pouvait venir compléter le salut en Jésus-Christ seul, sa mort n'a servi à rien. Un autre verset, toujours au même Galate, l'apôtre Paul dit « Si vous vous faites circoncire, le Christ ne vous servira plus à rien. » Certains se faisaient circoncire, c'était une intervention chirurgicale sur les parties génitales de l'homme, en pensant que ça permettrait d'atteindre la justice de Dieu. Mais si on pense ça, le Christ ne nous sert à rien. Et c'est ce que Paul dit, c'est soit tout vient de Christ, soit rien. Et c'est révolutionnaire dans la pensée réformatrice et dans la pensée ambiante, c'était une vraie révolution. Ma contribution annulerait l'efficacité de la croix. C'est ce que dit la Bible, c'est ce qu'enseigne la Bible. C'est comme si la Bible nous donne le médicament qui est le remède à une maladie mortelle et qu'elle nous dit « ce médicament, tu dois le prendre seul ». Et que nous, on a tendance à dire « je vais prendre un petit peu d'eau, ça va m'aider à l'avaler ». Ou alors du jus d'orange, ça donne des forces. Ça peut être que bon de prendre du jus d'orange. Mais la Bible nous dit non seulement ça ne sert à rien, mais en plus de ça, ça annule l'efficacité. C'est Christ seul ou c'est pas. C'est ça qu'enseigne la Bible. C'est que c'est lui seul ou c'est rien. Et il faut faire ce constat d'abandon lorsque on donne sa vie au Seigneur. Et il faut faire ce constat de dire « Mais Seigneur, prends tout, je ne peux rien faire, je suis impuissant pour me sauver. » Je ne peux pas ajouter ma petite contribution à l'œuvre du salut. Je ne peux pas ajouter ma petite contribution à l'œuvre du salut. Et si je pense ça, et si je fais ça, j'annule l'efficacité de la croix. C'est ce que la Bible enseigne, que le salut est en Jésus-Christ seul. Il est le seul remède. Je vais conclure en énonçant trois points simplement. Peut-être que certains pensent, comme le disait Arnaud en introduction, que c'est une grande intolérance que de dire que Jésus-Christ seul est capable de nous offrir le salut. On peut se dire que ce n'est pas faire preuve d'un grand esprit d'ouverture que de dire qu'il n'y a que Jésus-Christ qui peut nous offrir le salut. Quelque part, dire « en dehors de Jésus-Christ, pas de salut », c'est pas trop dans l'air du temps. Que c'est restrictif, après tout, à chacun sa vérité, etc., etc. Je voudrais retourner la question. Est-ce que Solus Christus, Jésus-Christ seul, est-ce que c'est intolérant ou alors est-ce que c'est un acte d'amour? Est-ce que quand on sait que le seul remède à une maladie mortelle, c'est de le prendre et de le prendre tel quel, est-ce que dire à l'autre « bon, tu peux faire ça, ça ne te fera pas de mal » ou « tu peux envisager d'autres pistes, vas-y, explore, etc. etc. » sans imposer, hein, bien sûr, sans imposer. Mais est-ce que c'est une preuve de tolérance ou alors est-ce que c'est un manque d'amour? Dans notre Église, nous croyons que le sacrifice de Christ est suffisant pour le salut. Nous l'affirmons haut et fort. Quoi qu'en pense les courants, quoi qu'en pense la bien-pensance, la parole de Dieu nous dit que le sacrifice de Christ est pleinement suffisant. Jusqu'à présent, je n'ai pas donné un seul verset qui sortait de la bouche de Jésus-Christ. Après tout, lui, il est jugé parti dans l'affaire. Mais un verset qui a été lu à deux reprises en introduction, dans la scène, et puis maintenant, c'est le verset de Jésus-Christ qui dit qu'il est la vérité, le chemin et la vie. Nul, pas un, ne vient au Père que par lui. Il n'y en a pas un qui peut venir au Père autrement que par Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. Jésus-Christ exerce encore ce rôle de médiateur aujourd'hui. Peut-être que vous n'avez pas... Peut-être qu'aujourd'hui, vous comprenez pour la première fois le fait que vous vous débattez à essayer de trouver des solutions ou à venir essayer de compléter le salut de Jésus-Christ. Et j'aimerais simplement vous lancer cet appel. Arrêtez de vous débattre. Parce que le sacrifice de Christ seul est suffisant. Il n'y a besoin que de ça. Vous n'avez pas à faire appel à une tierce personne. Vous avez à faire appel au médiateur. Jésus-Christ seul est le médiateur qui nous est proposé. C'est le seul qui avait les qualités nécessaires. Aujourd'hui, Jésus-Christ exerce un rôle encore particulier. Il est auprès du Père, nous dit la Bible, et il exerce la fonction d'avocat. Si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Le seul juste, il endosse mon péché, j'endosse sa justice. Voilà la médiation de Jésus-Christ. Il endosse mon péché, j'endosse sa justice. Et j'aimerais pour terminer formuler un vœu individuel pour ma vie de famille, ma vie personnelle, et puis un vœu aussi pour notre Église, un vœu collectif. Et ce vœu, c'est un peu celui que l'apôtre Paul avait formulé à une église qui était installée dans une ville qui s'appelle Colosse. Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est la seule qui est la solution à mon salut. Et je vais le dire au sens collectif, au sens de notre église, que nous puissions vivre ça ici à l'église chrétienne évangélique de Grenoble. Pour ce qui nous concerne, loin de nous, la pensée de nous glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. La croix de notre Seigneur et Sauveur, c'est la seule source de notre salut, pour la gloire seule de notre Dieu. Et ce sera le thème qui sera abordé par Scott la semaine prochaine. Que le Seigneur nous bénisse et nous renouvelle, peut-être nous aussi, réforme notre compréhension de ce salut qui est acquis à la croix de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ seul. Amen.